La lecture du passage biblique de ce matin est tirée de l'Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 67 à 80, dans le récit de la Nativité. Alors, Luc, chapitre 1, versets 67 à 80. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, exprime sa joie à la naissance de son fils et, rempli du Saint-Esprit, annonce que son fils précédera le Messie, le libérateur tant attendu par les Juifs. Loué et béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il est venu visiter et libérer son peuple. Il a fait naître pour nous, parmi les descendants du roi David, un puissant libérateur. Depuis le commencement des temps, il l'avait annoncé par la voix de ses saints prophètes et il vient d'accomplir sa promesse. Ce Sauveur nous délivrera de nos ennemis et de l'emprise de tous ceux qui nous haïssent. Il nous a témoigné ainsi sa compassion, comme à nos ancêtres, et il s'est souvenu de son alliance sainte. Conformément à ce qu'il avait juré à Abraham, notre ancêtre, qu'après nous avoir délivrés du pouvoir de nos ennemis, il nous accorderait la grâce de le servir sans crainte et de marcher en sa présence dans la sainteté et la droiture tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu précéderas le Seigneur et tu prépareras le chemin pour sa venue. Tu feras savoir à son peuple qu'il peut être sauvé et tu lui diras que ses péchés lui seront pardonnés. Que la compassion de notre Dieu est merveilleuse. Dans sa bonté paternelle, il a fait lever pour nous un jour nouveau sur lequel brille la lumière céleste. Une lumière aussi éclatante que celle du soleil levant. Elle éclairera ceux qui vivent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et elle guidera nos pas sur le chemin de la paix. Le petit enfant grandissait et se développait spirituellement. Plus tard, il vécut dans des grands endroits déserts jusqu'au jour où il commença son ministère public au milieu du peuple d'Israël.
Prière. Père éternel, je veux te remercier pour cette fête de Noël qu'on se prépare à célébrer, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, pour ce mémorial qui nous rappelle ta visite, ta venue ici sur terre à travers ton Fils Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, je veux t'adorer ce matin parce que tu es bon et parce que tu n'as pas oublié les hommes. Tu ne nous as pas oubliés, Seigneur. Et même si en marchant dans cette vie, sur cette terre, on a l'impression par moments que tu es loin, que tu es distant, et que s'il y a un Dieu, peut-être a-t-il créé l'humanité, créé l'univers, mais il est bien absent. Au contraire, dans ta grâce, dans ta bonté, tu es venu vers les hommes dans la personne de ton Fils. Et c'est ce qu'on veut se rappeler aujourd'hui, Seigneur, et avec toute cette période des fêtes. Viens ce matin nous rappeler ce que tu es venu accomplir en venant sur cette terre, Seigneur. Viens éclairer nos cœurs afin que nous saisissions cette paix que tu es venu offrir aux hommes, cette paix avec toi, cette paix avec eux-mêmes. Je te prie, Seigneur, de venir te révéler, de venir me remplir de ton Esprit Saint. Comme tu as rempli Zacharie au jour où il a prononcé cette prophétie, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit. Afin que ce ne soit pas simplement des chants, de la musique et des paroles, mais que ce soit une œuvre, une rencontre avec toi que nous expérimentions ce matin, Seigneur. Viens nous rencontrer, nous faire connaître Christ davantage ce matin. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Connaissez l'expression « Voulez-vous même ficher la paix? » J'ai une expression, une version un petit peu plus... je ne la dirai pas, OK? Probablement qu'elle vous vient à l'esprit, si vous connaissez le québécois. Vous avez appris à parler le québécois, oui? Patience, OK, ça finit comme ça. Voulez-vous même ficher la paix? Et tout le monde, à un moment ou à un autre, on dit ça. Soit qu'on le dit avec nos mots, si on est avec des gens très familiers, on ose peut-être le dire aux gens autour de nous. Ou sinon, on le pense souvent dans notre cœur. Parce qu'il y a des moments de pression, il y a des moments de tension, il y a des moments où tu dis, si les gens pouvaient me laisser tranquille, si les circonstances pouvaient être différentes, il me semble qu'à l'intérieur de moi, je serais bien, je serais en paix. Et on se dit à ce moment-là que c'est le problème, ce qui fait que je vis pas cette paix-là, ce sont des circonstances, ce sont des facteurs extérieurs à moi. Si ça allait mieux au travail, si le boss arrêtait de me tomber sa tête sur le dos pour me demander un paquet d'affaires, si mon époux arrêtait d'avoir des demandes sempiternelles, ça n'en finit plus, c'est jamais assez. Si les enfants pouvaient me donner un break quand je rentre à la maison, si mes deux ados arrêtaient d'avoir un paquet de demandes, peut-être que j'aurais la paix. Si le médecin arrêtait de me dire qu'il faut que je me prenne en main avec ma santé, il faut que je perde du poids, je peux-tu juste relaxer un peu? Oui, il y a plein de choses comme ça où on se dit, si les gens, si les circonstances autour de moi pouvaient changer, il me semble que je vivrais la paix, je pourrais enfin relaxer. Et dans ce temps-là, on se dit, si les choses à l'extérieur de moi pouvaient changer, il me semble que je vivrais la paix. Est-ce que c'est si vrai que ça? Que le facteur le plus important se passe à l'extérieur de moi? Est-ce que c'est si vrai que ça? Et vous savez, c'est une question de circonstance, c'est une grosse question. C'est une question que certains vont passer leur vie entière à se poser avant de trouver une réponse. Certains vont passer toute leur vie sans jamais trouver une réponse. Certains même vont se dire, c'est dans la fin de cette vie-là que je vais trouver cette paix-là que j'ai jamais trouvée dans cette vie. Et ils espèrent trouver ainsi une réponse à cette paix. C'est une grosse question. Pas une question superficielle qu'on règle nécessairement comme ça par un beau dimanche matin au milieu d'une tempête de neige. Et pourtant, c'est une question de circonstance. Parce qu'on est en train de se préparer à fêter Noël. On est en train de se préparer à fêter la naissance d'un sauveur. C'est une fête chrétienne qui est fêtée depuis des centaines d'années où nous soulignons la naissance de quelqu'un. Noël annonce une paix. C'est là, dans le message de Noël, c'est l'annonce d'une paix. Et pas n'importe quelle sorte de paix. Une vraie paix. Pas une paix que tu vas trouver quand tu es brûlé puis tu décides de t'écraser, tu décides d'ouvrir une bonne bouteille, tu décides de sortir avec tes chums, tu décides d'acheter la paix pour quelques heures. C'est pas de ça dont on parle, c'est pas l'annonce de Noël. C'est l'annonce d'une paix véritable. C'est l'annonce d'une paix profonde. C'est l'annonce d'une paix durable qui reste pour s'installer. Il y a une image dans la Bible qui parle de construire ma vie sur le roc ou sur le sable. La paix qui est annoncée avec Noël, c'est une paix qui est fondée sur un roc stable, solide, qui ne dépend pas vraiment des circonstances autour de moi. Ce n'est pas une paix qui est construite, qui est bâtie sur le sable et qui peut s'effondrer à tout moment. C'est une paix durable. Et ce matin, ce qu'on va faire pour aller trouver des réponses, quelle paix on parle, quelle sorte de paix, à quel prix, où la trouver cette paix-là, et on va se tourner dans les Écritures, dans ce vieux cantique de Zacharie que Julie nous a lu tout à l'heure, ce beau cantique de Zacharie pour essayer de trouver des réponses, où se trouve cette paix-là qui est durable et qui est véritable. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce cantique sous le nom de Benedictus. C'est son nom qu'on lui donne traditionnellement, le Benedictus. D'autres sont plus familiers avec le cantique de Marie qui s'appelle le Magnificat. Et peut-être que vous avez juste entendu parler du Magnificat. Mais le Benedictus, c'est un cantique qui est étudié depuis des siècles pour tout ce qu'il y a de beau dedans, tout ce qu'il contient, toute la richesse qu'il y a là. On l'appelle le Benedictus simplement parce que Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, Jean qui va être appelé Jean le Baptiste, commence son chant ou commence son moment de louange, d'exaltation en bénissant Dieu. Loué et béni soit le Seigneur. Et donc Zacharie commence à bénir Dieu. Maintenant, il y aurait sujet à bénir Dieu simplement parce qu'il y a un enfant. Combien ici sont papa? On met son papa. Je parle pas aux mamans, là, juste les papas, là. Hey, ce moment-là, où on donne ton petit poupon, là. Moi, personnellement, ça s'est passé à l'échographie. C'est là que c'est devenu vrai. C'est passé du concept à la petite bibitte avec un cœur qui bouge. Mais le moment où on te donne ton enfant dans tes bras, là, il y a une vie là, qui naît en toi. Il y a une reconnaissance, il y a une exaltation, il y a une joie qui est là. Mais Zacharie était un homme âgé, son épouse était âgée aussi. Il ne pouvait pas avoir d'enfant, son épouse était stérile, nous dit Luc. Et puis un jour, un ange apparaît à Zacharie, lui dit, « Tes prières ont été entendues, Zacharie, ton épouse va être enceinte, vous allez avoir un enfant. » Et non seulement vous allez avoir un enfant, mais cet enfant-là va être hors norme, va être spécial. Il y a un appel déjà même à sa conception de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu va venir sur lui avant même qu'il naisse parce que son destin, sa destinée est unique. Mais quand même, oubliez ça un instant, simplement pour Zacharie prendre cet enfant dans ses bras alors qu'il n'a jamais pu avoir d'enfant. On vit à une époque où c'est peut-être pas si important que ça, avoir des enfants, mais depuis des millénaires, avoir un enfant, c'est un trésor hors du commun. Et ça aurait pu être simplement ça, un chant d'exaltation parce que Zacharie est content d'avoir enfin son enfant. Mais Luc nous dit, étrangement, mystérieusement, et j'avoue que toute cette idée-là de l'inspiration, de prophétiser, tout ça, ça reste quand même mystérieux. Mais Luc, le narrateur, nous dit que mystérieusement, il y a deux auteurs à ce cantique. Zacharie n'est pas le seul auteur de ce cantique. Regardez le verset 67, et ce matin, on vous a mis ça aussi dans vos notes pour que vous puissiez vraiment suivre avec nous. Au verset 67, voici ce que Luc écrit. « Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit-Saint et prophétisa en ces termes. » Alors, vous n'avez pas simplement un vieux monsieur qui est maintenant un pops, puis qui est super content d'avoir son bébé, puis qui commence à dire « Alléluia, Dieu est bon! » Non, c'est plus que ça. À ce moment-là, Zacharie est rempli de l'Esprit de Dieu et il commence à prononcer des louanges à l'Éternel. Il bénit Dieu, mais il commence aussi à prophétiser, à annoncer les bontés de Dieu et la destinée de son enfant, mais d'un autre enfant aussi, et par le fait même la destinée de l'humanité, du peuple que Dieu veut racheter. Et c'est mystérieux, ça, j'en conviens, d'accord? Alors, si pour vous, toute cette idée-là que les Saintes Écritures, que la Bible puisse même être désignée comme les Saintes Écritures et que ce livre-là ait été inspiré par Dieu, écoutez, la Bible documente bien ce phénomène-là, même s'il y a une part de mystère et il y a des bons livres qui ont été écrits. Alors, empêchez pas ça, s'il vous plaît, de découvrir la beauté de ce message-là. Au contraire, venez nous voir, on va vous recommander des super bonnes lectures. Mais mystérieusement, le Saint-Esprit vient remplir le cœur de Zacharie et à travers la compréhension de Zacharie. C'est important de saisir ça ce matin, d'accord? Lorsque Dieu inspire sa parole à travers des agents humains, il y a une espèce de collaboration qui se passe là, d'accord? Zacharie n'est pas devenu tout d'un coup comme tombé à switch off. Puis le Saint-Esprit vient à lui, puis il commence à prophétiser, puis à dire toutes sortes d'affaires au nom de Dieu. Non, c'est plus que ça. Dieu vient mystérieusement travailler à travers son intelligence et une espèce de collaboration. Et donc, lorsqu'on lit le texte, on dit, « Ah, Zacharie n'avait pas encore saisi ça parce qu'il est juste rendu là dans le récit du salut, dans le récit de Dieu. Il est juste rendu là, il y a des choses qu'il ne voit pas. Mais en même temps, il lui est donné par l'Esprit-Saint d'annoncer des choses qu'il ne saisit pas, mais sont là. » Et constamment, on voit ça, on lit les psaumes, il y a des psaumes prophétiques, puis tu dis, mais David, comment il pouvait comprendre ce qu'il est en train de dire? Ça ne fait pas vraiment de sens tant que tu n'as pas saisi ce que Jésus est venu faire. Alors, c'est mystérieux, ça. C'est mystérieux. Mais parce que les choses vont s'accomplir, nous qui vivons 2000 ans plus tard, on dit, waouh! Luc avait bien raison de dire que Zacharie avait été rempli de l'Esprit-Saint à ce moment-là. Et donc, rempli de l'Esprit-Saint, Zacharie va commencer à bénir Dieu. Et on appelle ça un cantique, on appelle le cantique de Zacharie simplement à cause de sa forme, d'accord? Est-ce que Zacharie s'est vraiment mis à lancer un solo d'opéra, puis là tout le monde s'est arrêté parce qu'il était silencieux depuis plusieurs mois. Hein? Un ange lui avait dit, parce que t'as pas cru, tu vas être silencieux. Puis là tout d'un coup, à la naissance de son enfant, oh! Il commence à chanter. Je pense pas, d'accord? Je pense pas qu'il s'est mis à chanter, à faire un solo d'opéra. Mais en même temps, dans la forme, c'est à peu près la même forme qu'on trouve avec les psaumes dans l'Ancien Testament. Et les psaumes dans l'Ancien Testament étaient une forme poétique qui était bien souvent chantée, d'accord? Alors, on appelle ça le cantique de Zacharie pour cette raison-là. Le Benedictus, parce qu'il se met à bénir, à louer Dieu pour ses bontés, pour sa grandeur. Et donc, Zacharie commence à louer Dieu parce que Dieu est venu visiter son peuple. Parce que Dieu est venu à la rencontre de son peuple. Ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, qui avaient écouté la prédication d'Alexandre, on a commencé cette série « La paix à quel prix ?» Et Alexandre a mentionné quelque chose qui est super important lorsqu'on pense à Dieu. C'est pour ça, tout à l'heure dans ma prière, je disais « Peut-être, Seigneur, que souvent on a l'impression que tu es loin de nous, tu es distant. » Il y a une réalité avec Dieu, c'est que nous sommes des êtres limités, nous, êtres humains. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, le terme en philo, on va dire qu'on est des êtres finis. Pas dans le sens de fini, capote, mais dans le sens de limité comparativement à Dieu qui est infini. Et donc, pour nous, prétendre qu'on va comme réussir à saisir Dieu, à comprendre Dieu, à se rendre à Dieu pour le saisir dans toute sa grandeur, c'est farfelu. Vous comprenez? C'est farfelu, c'est comme si une fourmi était là, sans télescope, sans aucun moyen, essayait de saisir l'univers. C'est comme si nous, on essayait de tout comprendre sans aucun moyen, d'accord? Et donc, Alexandre nous a rappelé cette vérité avec une image vraiment drôle, celle de Willy Coyote. Ceux qui étaient là la semaine passée, on a parlé de Willy Coyote, qui poursuivait constamment Roadrunner, puis il n'arrive jamais à attraper Roadrunner. Mais on est un peu dans cette position-là. On peut passer notre vie à courir après Dieu. Si Dieu ne franchit pas, si Dieu ne comble pas la distance pour venir vers nous, je ne saisirai jamais Dieu. Et si on veut être bien honnête, on a de la misère juste à comprendre notre propre vie et ce qui se passe dans notre tête. D'accord? Alors, penser qu'on va saisir Dieu par nous-mêmes, c'est un peu farfelu. Mais Zacharie est en train de louer Dieu parce qu'il dit « Wow, Dieu est incroyable! » Dieu est incroyable parce qu'il est venu, il a visité son peuple, il a franchi la distance, il est venu vers nous, il a envoyé un libérateur qui est venu à notre rencontre. Verset 68, « Loué et béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il est venu visiter et libérer son peuple. Il a fait naître pour nous parmi les descendants du grand roi David, tel que les prophéties l'avaient annoncé, un puissant libérateur. » Alors, il dit, non seulement Dieu est venu visiter son peuple, mais il l'a fait à travers un puissant libérateur. Là, je vais me permettre une petite parenthèse, d'accord? Il y en a qui vont trouver ça comme compliqué un peu, ça va être un petit peu technique, mais plusieurs d'entre vous, vous lisez la Bible depuis des années, puis moi, quand je suis là, je suis en train d'étudier le texte, je dis, wow, il y a des perles là-dedans, puis je n'aurai pas le temps d'aller partout, puis dans tous les détails, mais c'est technique un petit peu. Restez avec moi, je fais juste une petite parenthèse, mais je veux comme en pousser d'autres dans leur réflexion, puis la semaine prochaine, je vais revenir un petit peu là-dessus. Dans le passage, lorsque Zacharie est en train de dire que Dieu a envoyé un puissant sauveur ou un puissant libérateur, les mots grecs que vous avez là, d'accord, le texte est en grec dans son texte original, et donc les mots grecs qu'on a là pour puissant libérateur, c'est kairos soterias. Ça va jusque-là, vous me suivez, vous êtes familier avec le grec? C'est bon? Kairos soterias, ça veut dire, et c'est là que je vais vous mélanger solide, ça veut dire corne de salut. C'est ça que ça veut dire. Sotérias, salut, jusque-là ça va, et donc c'est un sauveur qui s'en vient. Mais le petit mot qui est là, kairos, corne, ça, il y a une petite perle qui est juste là. Pourquoi est-ce qu'il prenait le mot corne pour illustrer la puissance? Et c'est une image qui nous vient de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, la corne symbolisait cette puissance du buffle, du bélier. Et donc, c'en est venu à rentrer dans le langage des Hébreux. Et lorsqu'ils voulaient dire que quelqu'un était puissant, ils pouvaient lui donner cet adjectif-là d'être quelqu'un qui est comme une corne, une puissance. Et donc, on a cette image à travers tout l'Ancien Testament. Maintenant, lorsqu'on a cette petite perle-là, puis là, pensez au casque de guerre qui mettait des cornes dessus. Si vous avez un doute, c'était pas pour charger vraiment l'ennemi avec leur casque. C'était pour impressionner l'ennemi en montrant qu'ils étaient puissants avec leurs cornes sur leur casque. Si vous êtes familier avec les Saintes Écritures, sautez maintenant dans l'Apocalypse avec moi, le dernier livre de la Bible, où on trouve ce passage où il nous est décrit l'agneau immolé, qui est une image pour parler de Jésus qui a été sacrifié, cet agneau immolé. Mais il nous est dit dans l'Apocalypse que cet agneau a sept cornes, qui nous parle de cette puissance parfaite que va avoir ce Sauveur. On va revenir un petit peu là-dessus la semaine prochaine parce qu'on veut voir aussi le retour du Seigneur qui va venir compléter cette paix. Fin de la parenthèse, d'accord? Mais méditez sur ça. Il y a vraiment des belles images dans les Écritures qui nous aident à mettre des pièces du casse-tête ensemble. Lorsque Zacharie nous dit que Dieu est venu visiter son peuple, Zacharie ne réalise pas à quel point il est dans le mille. Lorsqu'il dit « Dieu est venu visiter son peuple », Zacharie avait peut-être en tête l'idée que Dieu est venu à travers la bouche d'un prophète visiter son peuple. Régulièrement dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu vient vers son peuple, il envoie un messager pour venir vers son peuple. D'accord? Et donc, ça aurait pu se résumer à cela. Mais c'est beaucoup plus que ça ici. Lorsque Zacharie dit que Dieu est venu visiter son peuple à travers ce puissant libérateur, cette corne de salut, il ne réalise pas que Dieu est venu littéralement au milieu des hommes. Voyez-vous, Zacharie est le père de Jean le Baptiste. Jean est celui qui va annoncer la venue du Sauveur. Mais quelque temps plus tôt, une autre annonce incroyable avait été faite à une autre dame, Marie. Et un ange lui est apparu pour dire, « Toi, c'est pas le précurseur, c'est pas le prophète qui annonce la venue du Sauveur que tu vas porter en ton sein. » C'est le libérateur, le puissant libérateur. Et je veux juste vous ramener un petit peu plus tôt, dans le même passage, dans Luc 1, au verset 34-35. Marie dit à l'ange, parce qu'à ce moment-là, elle est fiancée, d'accord? Elle n'est pas mariée. L'ange lui apparaît pour dire, l'enfant qui va naître de toi, là, tu vas être enceinte, l'enfant qui va naître de toi va être le puissant libérateur. Fait que Marie a dit, c'est bon, je te crois. Juste une question. Je suis fiancé, on n'est pas marié. Comment ça va se passer? J'ai des principes quand même. Et donc, voici ce qu'on lit au verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie ne réalisait pas à ce moment-là et ne savait pas comment ça allait se passer, mais le Saint-Esprit lui dit, cet enfant va être complètement hors du commun. Si Jean-Baptiste est spécial parce que l'Esprit-Saint est venu sur lui alors même qu'il était dans le sein de sa mère, Jésus, lui, a été conçu par Dieu. Et donc, il n'a pas de père naturel, puisque l'Esprit est venu sur Marie. Et l'ange dit à Marie ici, c'est pour ça qu'on va l'appeler fils de Dieu. C'est parce qu'il est le fils de Dieu. Cherchez-lui pas un père sur la terre. Il est au ciel. Et donc, ce fils n'est pas seulement un homme, il est Dieu le Fils. Emmanuel, ailleurs, les Écritures nous disent, Dieu parmi nous, c'est ça le sens d'Emmanuel, Dieu est venu parmi nous. Et donc, ce puissant libérateur qui va venir, lorsque Zacharie dit, Dieu est venu visiter son peuple, il ne réalise pas que dans un moment unique à travers toute l'histoire de l'humanité, Dieu littéralement est venu visiter son peuple dans la personne de son Fils, le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Et donc Dieu est venu à la rencontre des hommes à ce moment-là pour venir et sauver les hommes. Excusez-moi. Voilà. Regardez le verset 78 avec moi. Dans sa bonté paternelle, il a fait lever pour nous un jour nouveau sur lequel brille la lumière céleste. J'aurai pas le temps d'aller regarder toute cette image du soleil levant comme je voudrais le faire ce matin. Mais voici comment le verset se poursuit. Une lumière aussi éclatante que celle du soleil levant. Elle éclairera ceux qui vivent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Elle guidera nos pas sur le chemin de la paix. Lorsque Dieu est venu visiter son peuple à travers la personne de son Fils, il est venu parmi les hommes pour les éclairer. Cette visite qu'il est venu faire, c'est pour les conduire hors des ténèbres, hors de l'ombre de la mort. Et Zacharie ne saisit pas tout ce qui va se passer là. Le peuple d'Israël connaissait Dieu depuis des siècles maintenant. Le peuple d'Israël cherchait à marcher avec Dieu, mais le peuple d'Israël errait en même temps loin de Dieu et avait besoin d'être guidé. Et Zacharie nous dit dans ce passage prophétique que ce puissant libérateur qui va venir pour éclairer les hommes, éclairer son peuple, les conduire hors de l'obscurité, hors de l'ombre de la mort, sur le chemin de la paix. Il va venir les conduire là. Voyez-vous, ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Et ce que Zacharie ne sait pas parfaitement encore, c'est que Jésus-Christ vient pour nous faire sortir de nos ténèbres et nous conduire dans la vérité, sur le chemin de la paix où nous ne savons pas nous-mêmes nous diriger. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Blaise Pascal. Si vous avez commencé vos cours de physique, vous avez entendu parler de cette unité de mesure, l'unité Pascal probablement. Blaise Pascal était un brillant mathématicien, physicien, philosophe, théologien, un brillant écrivain du 18e siècle, un écrivain français. Écoutez bien cette citation de Blaise Pascal. C'est vraiment génial de voir sa compréhension des Saintes Écritures et comment il comprenait le ministère de Jésus, ce puissant libérateur qui vient nous montrer le chemin de la paix. Voici ce qu'il dit. « Sans l'Écriture, en parlant de la Bible, qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien et ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. » Je répète ça, c'est du vieux français, c'est un gars brillant. Ils sont difficiles à comprendre, les gars brillants. « Sans l'Écriture qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien et ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. » En d'autres mots, ce que Blaise Pascal est en train de dire ici, c'est que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de saisir qui est Dieu vraiment. Et c'est ça que je disais tout à l'heure au début du message. Dieu est un être infini. Et c'est difficile pour nous, des êtres limités, qui avons de la difficulté même à comprendre notre propre nature, qui nous sommes, pourquoi nous agissons. On passe notre vie à essayer, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est quoi mes motifs? C'est quoi qu'il y a derrière? Pourquoi je suis déprimé aujourd'hui? Où je m'en vais dans la vie? On passe notre vie à essayer de répondre à ces questions-là. Blaise Pascal est en train de dire, sans Jésus-Christ, qui est le sujet central de toute la Bible, nous sommes dans l'obscurité, dans la confusion, incapable de saisir vraiment qui est Dieu et de saisir qui nous sommes vraiment. Et Blaise Pascal avait donc compris que nous avons besoin d'aller vers Jésus-Christ pour le laisser nous guider sur le chemin de la paix, pour le laisser nous guider vers Dieu, le laisser nous guider à comprendre qui nous sommes et comprendre qui est Dieu. Maintenant, c'était peut-être plus facile à l'époque de Blaise Pascal d'accepter cette vérité-là, parce qu'à cette époque-là, l'homme avait moins l'impression qu'il était capable de comprendre et expliquer toute chose avec la puissance de sa raison humaine, d'accord? On entre dans l'époque des Lumières et tranquillement, l'être humain va dire, par la force de mon intelligence, seul, j'arriverai à expliquer toute chose éventuellement, d'accord? Alors, c'est vrai qu'il faut, pour avoir cette attitude puis voir les choses comme Blaise Pascal, il faut quand même avoir à quelque part le sentiment que j'ai besoin d'un coup de pouce sur cette terre pour comprendre les choses, pour me comprendre moi-même. Dans le langage des Écritures puis dans ma vision du monde, ça prend une dose d'humilité, d'accord? Pour être en mesure de dire j'ai besoin d'un coup de pouce pour comprendre les choses, pour me comprendre moi-même et saisir Dieu. Et je dirais que ça demande encore plus qu'un coup de pouce, ça demande d'être vraiment conscient que j'ai besoin que quelqu'un me sauve de moi-même à quelque part et vienne me rencontrer, vienne me conduire. Blaise Pascal, encore une autre belle citation que je trouve vraiment, vraiment géniale. Alors, peut-être que ça va vous choquer ce matin. Peut-être que ça va vous choquer si vous ne voyez pas les choses comme lui. Peut-être que ça va vous choquer. Moi, je trouve qu'elle dit beaucoup sur le cœur humain. Voici ce qu'il dit. « Il n'y a que deux types de personnes dans le monde. Des justes qui savent qu'ils sont pécheurs et les pécheurs qui pensent qu'ils sont justes. » Il y a seulement deux types de personnes dans le monde. Ceux qui cherchent à marcher avec Dieu et qui savent pourtant qu'ils sont bien incapables d'y arriver par eux-mêmes. Ils ont besoin d'être guidés par Dieu à quelque part. Et ceux qui se disent, « J'ai pas besoin d'aide. Je suis capable, je vais y arriver par moi-même. » Et dans le fond, au fond de tout ça, je suis vraiment une bonne personne. Et je trouve que ça résume bien la situation du cœur humain. Ça demande de l'humilité pour laisser Jésus-Christ nous conduire sur le chemin de la paix. Au début du message, j'ai utilisé cette expression-là, j'ai dit la paix, mais quelle paix? Et c'est pour ça que j'ai aimé ce passage-là quand je l'ai étudié, parce qu'il nous aide à répondre à cette question-là. Quelle est la paix dont on a besoin vraiment, et quelle est cette paix que Jésus-Christ est en train de nous offrir, que ce Sauveur est venu offrir à l'humanité? Quelle est cette paix vers laquelle il veut nous conduire? Tantôt, j'ai utilisé l'expression « fiche-moi la paix ». Fichez-moi donc la paix! Mais quand je suis en train de dire ça dans mon cœur, hein, que j'ai 12 ans, que j'ai 15 ans, que j'ai 20 ans, que j'ai 30, 50, 60, 70 ans, je suis en train de dire beaucoup de choses. Chaque fois que dans votre cœur, vous pensez ça, puis vous dites « fichez-moi donc la paix! » Vous êtes en train de dire beaucoup de choses sur quelle sorte de paix vous pensez que vous avez besoin et d'où va venir cette paix. Cette paix-là va venir d'un changement dans les circonstances qui vous entourent, dans les situations autour de vous. Cette paix-là va venir si les gens autour de vous étaient seulement différents, si mon épouse était juste un petit peu différente, si mon mari était différent, si mes enfants enfin pouvaient juste se comporter comme du monde, si j'avais une femme dans ma vie, si j'avais trouvé l'amour de ma vie, si j'avais un travail où je pouvais m'épanouir, si ma santé était différente, si j'étais plus beau, si j'étais moins laid, si j'étais moins gros. Si j'étais né dans une famille avec plus d'argent, si j'étais né dans un autre pays, peut-être que si toutes ces circonstances-là étaient différentes, enfin j'aurais la paix. Enfin, j'aurai la paix. Et vous voyez, il y a un peu de cela, on va aller voir ensemble dans ce cantique de Zacharie. Zacharie, dans son chant, est en train de dire que ce puissant libérateur qui est venu pour changer les circonstances. Changer les circonstances pour son peuple. Regardez bien ce qu'il dit. Libérer de quoi? Est-ce qu'ils vont être libérés? Regardez le verset 71, 74, 75. Ce Sauveur nous délivrera de nos ennemis, de l'emprise de tous ceux qui nous haïssent. Verset 74. Afin qu'après après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait la paix de le servir sans crainte et de marcher en sa présence dans la sainteté, la droiture tous les jours de notre vie. Voyez-vous, Zacharie vit dans une époque bien précise, il vit à un moment donné et il entrevoit ce que le Sauveur vient faire à travers son contexte. Au moment où Zacharie prononce cette prophétie, au moment de la naissance de Jean-Baptiste, de la naissance de Jésus, la Palestine, Israël est sous occupation romaine, d'accord? Ça, c'est leur réalité. Et donc, Zacharie, à ce moment-là, lisant les prophètes, connaissant les prophéties de l'Ancien Testament, c'était un prêtre qui travaillait au temple, il était ferré dans les Écritures. Alors, à la lumière de ça, il dit, voici ce que le libérateur va venir faire. Il va venir nous libérer des Romains. Il va venir nous libérer de nos oppresseurs. Il va venir nous libérer de ces gens qui nous empêchent de servir Dieu, qui nous empêchent de vivre notre foi librement. Et il va venir nous libérer de ces gens-là. Et dans un sens, il n'y a pas tort. Parce que ça fait partie de l'œuvre du Sauveur. Ce que Zacharie ne saisit pas, et pour être bien franc avec vous, je ne vois pas comment il aurait pu le saisir, d'accord? Ce qu'il ne saisit pas, c'est que l'œuvre de ce puissant Sauveur, ce libérateur, c'est une opération de sauvetage en deux phases. C'est ça que les Écritures nous révèlent par la suite. C'est une opération de sauvetage en deux phases, d'accord? Zacharie a la deuxième phase en vue. Et Luc, à travers son évangile, les passages que je vous cite ce matin jusqu'à présent sont tirés de l'évangile de Luc. Bien, lorsqu'on avance à travers l'évangile, Jésus va grandir, son ministère ne va pas se passer comme poupon tout le long, et puis il va enseigner, puis finalement il va même être crucifié sur une croix, va ressusciter d'entre les morts, tout ça. Luc va nous aider à comprendre cette idée que son opération de sauvetage se faisait en deux phases. Et la deuxième partie, le tome 2 de l'évangile de Luc, c'est le livre des Actes des apôtres que Luc a écrit aussi. Et lorsqu'on lit le livre des Actes, ça devient encore plus clair. Luc va expliquer cela, d'accord? Mais Zacharie n'a pas tout ça en vue. Et donc, Zacharie voit déjà la phase 2 lorsque Jésus va revenir pour effectivement établir un lieu de paix, un lieu où les circonstances vont changer. Parce que les Écritures nous promettent cela aussi. Et Zacharie n'a pas totalement tort. Certains d'entre vous, vous vivez dans des circonstances qui sont difficiles. D'accord? Et ce n'est pas tout à fait faux de dire, oui, mais Yannick, si mes circonstances étaient différentes, ce serait quand même plus facile. La question que je vous soumets ce matin, c'est, est-ce que vraiment des circonstances différentes ferait de vous une bonne personne? C'est ça la question que je vous pose. Parce qu'à quelque part, c'est ce que Zacharie croit. C'est ce qu'il dit dans son passage. Il parle bien sûr du besoin pour les Juifs d'être pardonnés de leurs péchés, mais tout l'accent est sur cette libération-là qui doit venir. C'est là qu'il met tout son accent. Mais Zacharie est en train de dire, si les circonstances peuvent changer, mon peuple va marcher avec Dieu. Et ce n'est pas vrai. C'est particulier que ce soit Zacharie qui le dise parce qu'on a tout l'Ancien Testament qui est là pour nous montrer le contraire. Mais je pense que notre nature fait qu'on veut toujours mettre le blâme sur l'extérieur, sur les circonstances, sur les gens autour de nous. Puis on se dit, si eux faisaient les choses autrement, ce serait différent pour moi. Je pense que c'est notre nature, d'accord? Je pense qu'on raisonne comme ça naturellement. Pourtant, tout l'Ancien Testament était là pour nous enseigner le contraire de ça. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, lorsqu'il a été formé vraiment, était esclave en Égypte. Ils étaient sous l'esclavage parmi les Égyptiens. Et donc, à ce moment-là, ils n'étaient pas libres vraiment de servir Dieu. C'est vrai de dire ça parce qu'ils étaient astreints à des charges de travail complètement débiles. On est content d'avoir des semaines de 40 heures, 50 heures. Les plus fous font 60 heures, d'accord? Mais à cette époque-là, oubliez ça, tout le monde faisait 60, 70 heures. 80 heures par semaine, ils étaient esclaves et donc ils travaillaient toute la journée. Il n'y avait pas de temps littéralement pour dire « Hey, on va-tu se réunir ensemble et on va chanter des cantiques? On pète notre driveway puis on se rend à l'église, on va aller chanter ensemble. » Non, non, on s'en va faire des briques, c'est ça qu'on s'en va faire. Et donc, ils n'avaient pas la liberté vraiment de pouvoir servir Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu intervient, les libère de l'esclavage en Égypte, les conduit dans une terre de liberté, la terre promise. Et lorsqu'ils arrivent là, ils sont dans une terre d'abondance et Dieu les conduit, il leur permet vraiment de s'installer dans le pays. C'est une place de richesse. Et donc, on aurait été en droit de croire qu'à ce moment-là, le peuple aurait commencé à servir Dieu. Non seulement Dieu les sort d'Égypte et les conduit là dans une terre de liberté, mais il leur donne aussi une loi parfaite. Une loi qui leur dit « Voici comment je suis amour, voici comment je suis justice, voici comment je suis bon. » C'est comme ça que vous allez agir les uns envers les autres. Vous allez être généreux, vous allez être bon, vous allez marcher dans la droiture, dans la sainteté, dans la bonté. Quand l'étranger, l'immigrant va venir, vous allez l'accueillir, vous allez partager avec lui. Et donc, on aurait été en droit de croire, si tu changes les circonstances, les gens vont commencer à marcher avec Dieu. Mais toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est une démonstration à répétition, que les circonstances ne sont pas suffisantes pour faire d'une personne une bonne personne. Parce que le peuple de Dieu va constamment errer, va constamment s'éloigner de Dieu. Parce que fondamentalement, notre réflexe à nous comme êtres humains, c'est de dire si seulement les gens, les circonstances pouvaient m'être favorables, si on pouvait me ficher la paix, si Dieu pouvait répondre à mes besoins, je pourrais enfin penser à moi-même, m'occuper un petit peu de ma petite personne, avoir mes projets à moi, me flatter un peu dans mon coin. S'ils pouvaient me laisser tranquille, je pourrais aller prendre mon bain chaud puis juste m'occuper de moi-même puis avoir mes rêves, mes ambitions. Si tout le monde pouvait s'enligner derrière mes ambitions, on serait bien. C'est notre tendance naturelle. Le cœur humain est comme ça. Notre tendance naturelle, c'est de vouloir se servir des gens autour de nous, se servir de Dieu, se servir des circonstances simplement pour pouvoir se centrer sur soi-même. Se tourner vers nous-mêmes. Et donc, Zacharie aurait pu voir paraître déjà que c'est pas ça qui allait se passer. Et ce matin, je vous donne un test pour votre propre cœur, pour nos cœurs à nous. D'accord? Parce que dans le passage, dans ce cantique de Zacharie, on a le but de cette délivrance. Dans le passage, il dit que Dieu vient au milieu de son peuple, envoie un puissant libérateur qui va venir les délivrer, oui, éventuellement les libérer de leurs ennemis, mais qui va venir aussi les conduire sur le chemin de la paix. Et cette paix-là, ce chemin-là où Dieu veut les conduire, il nous est décrit dans le passage parce que le but de cette opération de sauvetage est clairement énoncé dans le passage. Regardez avec moi les versets 74-75. Et moi, ce que je vous propose, c'est que ces deux versets-là servent de test pour nos propres cœurs, parce que je crois qu'ils en étaient un pour le peuple d'Israël. Afin qu'après nous avoir libérés du pouvoir de nos ennemis, il nous accorderait la grâce de le servir sans crainte et de marcher dans sa présence, dans la sainteté et la droiture tous les jours de notre vie. Le but de l'opération de sauvetage, lorsque Jésus vient et nous conduit sur le chemin de la paix, c'est que nous soyons libres d'aller servir Dieu, marcher dans sa présence, dans la droiture et la sainteté tous les jours de notre vie. Et c'est ça l'objectif, c'est ça le but. Dieu vient nous libérer en disant « Je vais vous conduire dans la vraie liberté ». La vraie liberté, ça va être de venir me servir, me glorifier parce que je suis Dieu, parce que je suis bon, parce que je suis amour. Vous allez être mon reflet devant les hommes. Vous allez me glorifier en marchant dans la sainteté, dans la droiture chaque jour de votre vie. Je vais rendre ça possible dans vos cœurs. Et pour être bien franc, si on veut être honnête avec nous-mêmes, je crois pas que c'est donné à l'homme naturel. C'est pas un réflexe naturel chez nous de dire « Oh, j'ai tellement hâte de pouvoir servir Dieu, marcher dans la sainteté, dans la droiture, penser aux autres, être généreux, être rempli d'amour pour tout le monde. J'ai hâte, ça me fait du bien, c'est ça que j'ai le goût de faire. » Mais c'est là que Dieu veut nous conduire. Parce que Dieu veut que nous soyons libres, Dieu veut que nous soyons heureux. Et lui sait que le bonheur se trouve à être à sa ressemblance. Amour, bon, saint, juste, droit, charitable, généreux. C'est vrai que le bonheur se trouve là. Et on est capable de le concevoir avec notre intelligence, on est capable de l'imaginer. Mais de là à dire que nos cœurs désirent vraiment cela, ça c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. Et c'est là que Jésus est venu nous conduire. Tout à l'heure, j'ai dit que Zacharie ne voyait pas bien les deux phases de l'opération de sauvetage. Il ne saisissait pas tout à fait ce que Jésus s'en venait faire dans un premier temps. Et je pense que c'était normal, c'est difficile pour lui de le comprendre. Mais ce que Jésus s'en venait faire, c'est qu'il s'en venait nous montrer c'est quoi marcher avec Dieu, c'est vrai, nous enseigner sur ça. Mais d'abord et avant tout, mourir sur une croix. Mourir sur une croix en s'offrant en sacrifice, afin que nos péchés puissent être pardonnés et qu'un cœur nouveau nous soit donné. Et ensuite, nous conduire par son esprit qu'il place en nous sur le chemin de la paix. Pour nous apprendre à marcher chaque jour dans la présence de Dieu. Et y trouver un bonheur profond. À marcher dans la droiture et dans la sainteté chaque jour de nos vies. C'est ça que Jésus-Christ est venu accomplir. Et si c'était difficile pour Zacharie de saisir cela, à la fin de l'évangile de Luc, je vous l'ai dit, Luc va développer ça tranquillement. À la fin de l'évangile de Luc, on trouve un super beau passage. Jésus a terminé ses premiers moments importants où il se livre, il meurt sur une croix, il ressuscite d'entre les morts, se prépare à retourner auprès de son Père où il est actuellement depuis 2000 ans, avant son retour. Et il y a ce moment avec les disciples où il va venir les éclairer. On trouve dans Luc 24, verset 44 et quelques versets suivants, je vais vous les lire. Puis il dit, « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Zacharie avait compris que l'Ancien Testament parlait de Jésus, il n'avait pas compris tout ce qui devait s'accomplir. Alors il leur ouvrit l'esprit. Jésus est celui qui est venu pour conduire son peuple hors de l'obscurité, hors des ténèbres de nos cœurs, pour nous conduire dans la lumière. Il est ce soleil levant qui vient nous éclairer. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ, le Messie, le Sauveur, souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » vous êtes témoins de ces choses. » À ce moment-là, lorsque le puissant libérateur, Jésus de Nazareth, qui est mort, ressuscité d'entre les morts, glorifié, est là, dans la présence de ses disciples, à ce moment précis, ce puissant libérateur conduit ses disciples hors de l'obscurité parce qu'ils ne saisissaient pas quel était vraiment le chemin de la paix. Le chemin de la paix, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie qui nous conduit dans ce sentier de paix. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans votre cœur. Je ne sais pas quels sont les sentiments qu'il y a dans votre cœur. Mais si dans votre cœur, vous dites, j'ai besoin d'être conduit sur ce chemin de la paix. J'ai besoin d'être conduit sur ce chemin de vérité. J'ai besoin de me détourner de moi-même pour me tourner vers Dieu parce que j'ai réalisé, comme le disait Blaise Pascal, que par moi-même, tout est obscurité. Je n'arrive pas à saisir Dieu. Je n'arrive pas à saisir ma propre nature, qui je suis, et j'ai besoin d'être guidé. C'est ça que Jésus-Christ est venu accomplir. Et ce matin, on fête Noël, on se prépare à fêter Noël pour les quelques prochains jours ensemble et dans nos familles. Et on est en train de souligner l'arrivée, la naissance de Jésus-Christ. C'est vrai, c'est l'arrivée de ce Sauveur. Maintenant, Zacharie voyait le retour de Jésus. Jésus a fait beaucoup plus que cela. Déjà, il a opéré ce salut qui nous était offert. Alors, si ce matin dans ton cœur, tu dis, j'ai besoin d'être guidé. J'ai besoin d'être guidé hors de l'obscurité de cette vie où je suis en train de chercher à tout construire moi-même sans avoir ce guide qui me conduit vraiment vers Dieu. Jésus-Christ est venu précisément pour cela. Le message qu'il mentionne ici, il dit, il fallait qu'il vienne afin que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations. Voyez-vous, lorsque Jésus est venu vers son peuple, ce qu'il a annoncé, c'était la repentance. Et donc, tout ce qu'il est en train de dire, c'est que ça doit prendre ce moment où je prends conscience que j'ai besoin de cette lumière divine, Jésus-Christ, qui va venir me faire entrer sur ce chemin. Et j'ai besoin donc de me détourner. C'est ça l'idée de repentance, c'est me détourner de ma propre voie, mon propre chemin que j'ai décidé de construire uniquement par moi-même. Parce que je réalise que dans mon cœur, le chemin de la paix, le chemin de la liberté, marcher avec Dieu chaque jour de ma vie, c'est pas quelque chose qui naturellement va m'attirer. J'ai besoin d'être guidé sur ce chemin-là. Et c'est ça la repentance. La repentance, c'est reconnaître que je suis pécheur et que j'ai besoin que Dieu me guide là. C'est reconnaître que je suis égoïste, que je suis centré sur moi-même naturellement et que j'ai besoin que Dieu me conduise là. Et ce que Dieu veut m'offrir, et ce qu'il veut t'offrir cette année à Noël, c'est le pardon des péchés. Que tous tes péchés soient pardonnés et que cette neige qui est à l'extérieur, qui est blanche, qui est tellement belle, tellement incroyable, soit plus que juste quelque chose de fatigant un dimanche matin, mais que ça devienne, à chaque fois qu'il va y avoir une ondée de neige comme ça sur le Québec, Dieu te rappelle qu'un jour, un 15 décembre 2013, tu as rencontré personnellement Jésus-Christ et tu as été pardonné de tous tes péchés. Tu as fait la paix avec Dieu. Tu as fait la paix avec ce que tu es dans ta nature pour entrer dans un chemin de paix où à partir d'aujourd'hui, tu peux marcher avec Dieu chaque jour de ta vie. Et ça, c'est une décision que tu prends dans ton cœur. Tout à l'heure, pendant la prière, tout à l'heure, pendant le repas, tu t'accroches un ami, tu vas jaser avec, tu commences à lire les évangiles pendant la période des fêtes, tu vas lire l'évangile de Luc parce que tu veux découvrir ce Sauveur-là. Et l'Esprit va venir t'éclairer et te convaincre progressivement, si ce n'est pas déjà fait, de ce besoin dans ton cœur. J'aimerais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Et chacun d'entre nous qui avons connu ce jour de grâce, ce moment ou cette période dans notre vie où Jésus-Christ a fait ce qu'il a fait avec les disciples ici. Regardez bien ce qu'il a fait avec les disciples. Il a ouvert leur esprit pour qu'ils saisissent ces choses. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous qui avons déjà connu cette grâce-là, J'ai connu que Jésus-Christ est celui qui conduit sur le chemin de la paix. J'ai connu que par moi-même, je ne trouverais pas le chemin de la paix. J'ai connu que j'avais besoin d'un sauveur parce que Dieu est venu m'éclairer. Noël est là pour nous rappeler que nous sommes libres maintenant. C'est vraiment important ce que je vous dis là. Le puissant sauveur est venu pour nous conduire dans la liberté. Et aujourd'hui, si vous êtes chrétien, si vous avez été éclairé par l'Esprit de Dieu habite en vous. Et aujourd'hui, vous êtes donc libre. Lorsque Jésus a annoncé cela aux disciples, il a ouvert leur esprit, ces gens-là sont entrés dans le chemin de la paix, ils ont saisi cela, et tout le livre des Actes, qui est la suite de l'évangile de Luc, est une démonstration puissante et glorieuse que ces hommes et ces femmes étaient effectivement libres de marcher sur le chemin de la paix, de marcher avec Dieu dans la droiture, dans la justice, dans la sainteté, tous les jours de leur vie. Et ce peuple-là nouveau qui est formé, qui sont éclairés comme ça, tout le livre des Actes nous raconte cette histoire glorieuse où on voit cette liberté nouvelle dans leur cœur. Ces gens-là qui étaient simples, pauvres, riches, certains instruits, vont bouleverser leur société. Pourquoi? Parce qu'ils sont libres. Parce qu'ils sont libres, parce que dans leur cœur, ils ont reçu l'Esprit Saint et maintenant, ils ont ce cœur nouveau qui désire tous les jours de leur vie marcher avec Dieu. Alors, si tu es chrétien, tu es libre. Tu es libre de marcher dans sa présence. Si vous êtes marié, vous êtes libre de vous aimer. Vous êtes libre de vous aimer par la puissance de l'Évangile, d'aller vers ton épouse et de dire, chérie, je t'aime et je sais que des fois, je suis pas là puis je me suis emporté tantôt, mais je te demande pardon parce que je veux voir l'Esprit Saint briller dans notre couple. Je suis libre d'aller voir mon mari puis de dire, chérie, je t'aime et puis c'est pas grave si on n'est pas parfait. Christ est là au milieu de nous. Vous êtes libre d'aller vers vos enfants puis de dire, écoutez les enfants, oui, il y a toutes sortes de directions dans le monde, mais ouvrons les Écritures, je vais vous montrer quel est le chemin de la paix. Vous êtes libre d'aimer vos ados puis de pas être obligé d'être en train de dire « Ah, oh, l'adolescence! » Non, l'adolescence où vous êtes là, c'est une période où vous êtes là pour être des guides. Vous êtes là pour être des guides pour les conduire sur le chemin de la paix. Vous êtes libre de travailler dans des circonstances qui sont pas faciles des fois, où le boss est toujours sur votre dos, puis en même temps être heureux. Être heureux parce que vous savez qu'au-delà de travailler pour un patron, vous travaillez pour le Seigneur. Et qu'il y a des gens qui sont témoins qui vous regardent marcher. Vous êtes libre de vos péchés. Vous êtes libre de marcher avec Dieu. Entrez dans cette liberté-là. Et si Noël ne sert qu'à cela cette année, à vous rappeler que vous êtes vraiment libre. Parce que le libérateur vous a libéré. Mais gloire à Dieu, écoutez l'Esprit de Dieu. Et c'est vrai, on demeure pécheur. Mais c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour qu'on soit pardonné. Alors je vais dans la prière, puis je le laisse me convaincre. Me convaincre qu'il m'a pardonné et que je suis libre de marcher avec lui. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es venu et tu es merveilleux. Il n'y a pas de libérateur, il n'y a pas de guide, de philosophe, d'enseignant, de maître à penser dans l'histoire de l'humanité qui est comparable à toi d'aucune manière, Seigneur. Et si certains ont été sages, si certains ont apporté des vérités vraiment surprenantes parfois, aucun d'entre eux n'a été Emmanuel. Dieu qui marche au milieu de nous, aucun d'entre eux n'a été cela pour nous, Seigneur. Tu es ce puissant libérateur qui est venu parmi les hommes pour nous libérer, non seulement de circonstances souvent difficiles, mais de nous libérer de nos péchés, pour nous conduire sur le chemin de la paix, cette paix véritable, durable, profonde, intérieure. Et nous conduire dans cette liberté de marcher avec toi, Seigneur. De marcher dans ta présence, Seigneur. Librement, joyeusement, Seigneur. Je suis libre aujourd'hui, Seigneur Jésus, et par la foi, Seigneur, je ne permettrai pas à ma vieille nature, à mon orgueil, à ce monde, à toutes sortes de philosophies, à ce monde de consommation pendant la période des fêtes, de venir me ravir cette liberté-là. De venir me ravir cette joie qu'il y a dans mon cœur, d'être libre de marcher avec toi, d'aimer mon épouse, d'aimer mes enfants, d'aimer mes voisins, d'être généreux, de te glorifier, d'être compatissant, d'être bon à ta ressemblance, Seigneur, parce que je trouve plaisir à marcher dans ta présence chaque jour de ma vie. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus. Tu es notre puissant libérateur. Amen.